Alors, Jérôme Laurent, Josette Fontaine et Cyrielle Cosman, Cosman, pour quelque chose qui va nous envoyer loin, Augmented Reality, with a touch tab for prevention of procedural pain in pediatrics. Sounds very specialized.
Alors, je suis donc infirmier s'occupant de la douleur dans un hôpital bruxellois. Et depuis un an, je mène une expérience un peu particulière sur les douleurs procédurales. Et donc, je vous invite à comprendre ce que sont les douleurs procédurales, à découvrir un jeu ou une application. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de serious game. On pourra peut-être en discuter. Et de vous expliquer une petite étude que j'ai faite dans un hôpital universitaire. Voilà. Et voilà, j'oubliais tout le temps le mot s'approprier, donc je vais essayer de m'en rappeler. Alors, déjà, la réalité des douleurs procédurales. Les douleurs procédurales, c'est les douleurs qui sont causées par les soins. Un rapport d'évaluation des pratiques professionnelles de la PHP en 2007, qui n'était pas spécifique à la pédiatrie, mais rapporte qu'il y a quand même 30% des soins qui sont vécus comme douloureux, à très douloureux par les patients, que 64% de ces soins-là n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge spécifique, et que malgré ça, 94% des patients étaient satisfaits de comment ça s'était passé. Par exemple, sur la photo d'à côté, un soin qui se passe mal, qui est douloureux pour l'enfant, la mère est satisfaite et sourit parce que quand il faut le faire, il faut le faire. Voilà. Donc ça représente quand même une réalité. Les conséquences des douleurs procédurales chez l'enfant, c'est qu'il y a des modifications à long terme des comportements face à la douleur. Donc on va pouvoir, les enfants vont pouvoir développer des phobies des soins et réagir négativement aux actes ultérieurs. On a prouvé aussi qu'il y avait une certaine permanence de la composante affective de la douleur. Donc on a mal une fois, plusieurs mois après, on peut redécrire précisément l'émotion qu'on a vécue à ce moment-là. On sait aussi que la durée ou la fréquence du geste est assimilée à l'intensité de la douleur. Donc une toute petite douleur répétée de nombreuses fois ou présente pendant longtemps est perçue par l'enfant comme une douleur intense. Et enfin, on peut rapprocher l'expérience des douleurs procédurales chez l'enfant à un stress post-traumatique. Voilà. Alors, chez le soignant, il y a aussi des conséquences. La première, c'est la pratique de la contention. Donc, quand le soin se passe mal, quand le soin est douloureux, une des premières solutions, c'est de tenir l'enfant pour qu'on puisse finir le soin. La deuxième conséquence, c'est un certain mal-être professionnel, parce que là, il y a quand même un paradoxe éthique. Je dois faire du bien, mais pour faire du bien, je dois faire le mal. Donc, ça peut déstabiliser aussi le personnel soignant et entraîner une fatigue professionnelle et une apparition d'une certaine forme de déni. Qu'on peut évaluer la douleur, on demande si ça fait pas mal du tout ou si ça fait presque pas mal. Voilà. Une adaptation de l'EVA. Alors, il y a des moyens de lutter contre les douleurs procédurales. Alors, il y a les médicaments qui font partie du pharmacologique et il y a aussi le non pharmacologique. Et en référence au docteur Chantal Wood, qui prescrit la distraction au même sens que les médicaments. Donc la distraction, c'est détourner l'attention du soin, de dériver la perception, une perception sensorielle désagréable vers une perception sensorielle un peu plus agréable, de mélanger les stimulations visuelles, auditives, sensorielles dans certains cas, et de saturer l'attention pour que finalement il y ait moins de place à la douleur. Alors sur cette idée-là, on a voulu développer un programme. C'est une expérience antérieure de réalité augmentée dans la pratique des soins chez les brûlés, où l'enfant joue avec un système de réalité augmentée. Et en 2007, ils ont donc montré que ça avait une incidence sur le ressenti de la douleur chez l'enfant. Alors, en travaillant avec les enfants, j'ai eu l'idée à un moment d'utiliser cette même technologie de réalité augmentée. Alors, on a créé un petit programme sur tablette, en collaboration avec un auteur de bande dessinée de Spirou. C'est le chat et l'oiseau, mais dès leur royaume. En collaboration avec une école d'infographie à Namur, en Belgique, aussi, qui ont fait les dessins. Un ami programmeur, et puis moi à l'hôpital. Et j'essayais, sur les enfants, voir ce qui pouvait marcher. Et après, je rappelais le programmeur en disant il faudrait modifier telle ou telle partie, parce que là, c'était pas facile. Et le surlendemain, il me disait ben, essaye cette version-là. Voilà, donc une méthode agile qui permet de s'adapter à la demande des patients et des soignants. Alors, par exemple, il y avait les nuages. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, à travers la caméra, l'enfant peut voir son environnement. Donc, c'est un peu un jeu multijoueur. Dans les joueurs, il y a l'enfant, il y a le soignant qui va faire mal, le distracteur et les parents. Donc, c'est déjà vraiment multijoueur. Et un des principes, c'est, par exemple, de modifier son environnement. Donc, c'est une certaine façon de se l'approprier aussi. J'ai pu le caser. Donc, en cachant les éléments ou en interagissant avec son environnement. Donc, on peut choisir de déposer des nuages sur les genoux qui sont des personnes qui attendent avec nous en salle d'attente. On peut aussi cacher l'infirmière qu'on ne veut pas voir. Ou on peut... je crois que c'est la diapositive d'après. Voilà, ça, c'était l'expérience d'un enfant dans une situation assez difficile. Et il a commencé par mettre sa mère au centre des nuages. Après, il a décalé un peu la caméra pour plus voir sa maman, et il a pris chacun des nuages pour les mettre en dehors de l'écran. Et très méthodiquement, il a vidé tout l'écran en reproduisant un peu le Forda freudien, finalement, où on met quelque chose de la présence de la mère symbolisée par le nuage, et on devient actif pour métaphoriser l'absence, finalement, et manipuler de soi-même les nuages, la disparition de sa mère. Et en étant plus actif, eh ben, on se sent mieux. Voilà. C'est un exemple d'utilisation. Un autre exemple d'utilisation, c'est par exemple dans la gestion du MEOPA, le gaz anesthésiant, où le fait de poser un masque sur le visage de l'enfant peut être perçu comme quelque chose d'assez angoissant. L'enfant veut bien jouer, mais il veut pas le masque. Donc je lui ai proposé la tablette avec les nuages, et je lui ai demandé de souffler sur les nuages. Donc l'enfant s'est mis à souffler sur les nuages, et je faisais bouger les nuages en même temps avec mon doigt. D'où la nécessité que ce soit en multijoueur. Donc je lui ai simplement proposé, après, de souffler pour faire bouger les nuages à travers le masque. Donc elle a pris le masque, a soufflé à travers les nuages, et ça s'est fini de façon assez joyeuse. Alors, je ne sais pas si on peut...
Bah, elle est dans les nuages, hein, comme d'habitude.
Maman, ouais. Ouais. Je suis là.
Et donc, il y avait sa mère en face,
ouais, elle est dans les nuages,
qui flottait autour des nuages.
Est-ce que vous êtes bien, madame, dans les nuages?
Oui, super.
Ça plane pour vous, comment?
Et donc c'était un moment assez difficile parce que avant d'arriver là, il y avait quand même eu 20 minutes de cris, de drames, de négociations, jusqu'à arriver à ça. Donc il y a un facteur temps aussi important dans l'appropriation de l'outil. Deux fois. Voilà. Je ne sais pas comment on fait pour partir. Une deuxième expérience, donc ça c'est plutôt le côté expérimental qualitatif. En salle de réveil, une chirurgie des pieds assez douloureuse chez l'enfant. Il arrive en se recroquevillant, en pleurant. Donc, je lui propose la tablette pendant que je vais demander à l'anesthésiste quel dosage je peux rajouter en analgésique. Et donc finalement, je lui donne une petite dose et la tablette. Et au bout de 3 minutes, l'enfant... c'est un camion de pompier, en fait, ouais, qui permet d'arroser ses pieds.
Lève le pied.
Et donc, l'enfant ne pensait plus à pleurer, mais à arroser ses pieds pour se soulager. Donc, il y a quelque chose de la suggestion hypnotique où on va arroser les pieds, parce que, ouais, comme à la maison, quand on se brûle, on met la main sous l'eau, ça fait du bien.
Bravo.
Alors, pourquoi pas à l'hôpital aussi.
Super.
Se soulager avec des images suggestives. Et qu'on peut aussi, dont l'enfant est actif dans la gestion de ces images. Et de la même façon, si notre lit d'hôpital ne nous plaît pas, on peut y planter des fleurs, jouer avec des papillons, et si possible en mettre aussi sur le doudou. L'image d'à côté, c'est une enfant qui ne voulait pas manger sa tartine. Donc on a joué avec le papillon qui mangeait sa tartine. Voilà. Donc ça permet aussi de dédramatiser certains événements de la relation dans le système de soins. Et le but, c'est de vraiment favoriser la relation pour que ça se passe mieux. Voilà. En salle d'opération aussi, j'ai essayé. C'est dans l'autre sens. Voilà.
Tu veux l'emmener où encore ?
De la même façon, des choses très, très étrangères pour un enfant, très, très anxiogènes. Le fait de pouvoir... C'est un petit papillon que l'enfant envoyait un peu partout dans la salle d'opération. Donc le fait de pouvoir mandater le papillon pour aller repérer ce qui était anxiogène, c'est bien.
On va chatouiller ça ? Vas-y.
Donc il y avait la pile de médicaments entre ses pieds, on envoyait le papillon, elle a visité la table des instruments chirurgicaux un peu plus loin, et finalement, le chirurgien, la chirurgienne est arrivée, et on lui a envoyé le papillon sur le nez.
Hop.
Donc il y a aussi la problématique de la contre-agression, qui peut être importante.
Ah, c'est le papillon de l'amour. Hop. Attends, bouge pas. Bien. Sur le nez.
Donc voilà, ça amuse aussi les chirurgiens.
Est-ce que tu as envie qu'on regarde ce qu'ils sont en train de préparer là-bas avec le papillon ?
Donc à la suite de ça, à la suite de ce développement donc basé sur des données qualitatives, donc j'ai interrogé aussi les parents, comment ils ressentaient les choses, interrogé les enfants. On s'est dit qu'on allait faire une étude un peu plus quantitative. Donc j'ai rencontré Josette Fontaine, qui est infirmière de la douleur à l'hôpital des enfants à Bruxelles. D'ailleurs, hier, en rentrant... J'ai fait un malencontreux lapsus en disant l'hôpital des enfers, parce que la pédiatrie peut être un enfer. Donc on a pris 60 enfants pour des prises de sang. On a fait deux groupes, des enfants âgés de 4 ans à 7 ans, 30 avec des procédés de distraction traditionnels, c'est-à-dire il y a des autocollants sur le bord du mur, un mobile, on discute avec l'enfant... Car c'est le capitaine Crochet, voilà. Et 30 enfants avec la tablette et ce programme. On a essayé de repérer certains outcomes, donc la douleur à la ponction, qu'on a évalué de façon différente, avec l'échelle des visages et avec une échelle d'hétéroévaluation sur base de vidéos, où on repère les mouvements, les gémissements, et ainsi de suite. C'est l'échelle FLAC. On a calculé la durée de pleurs et le niveau de contention des enfants. Alors, les temps de pleurs, on s'est rendu compte que ça allait diminuer de 69%. Et on arrivait à un P à 0,01. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'avec les moyens de distraction traditionnels, ça peut être les bulles de savon, les histoires, les images, quand ça devient très délicat à gérer, si ça ne marche pas d'emblée, l'enfant décroche, mais le soignant décroche aussi, et finalement se dit bah, « Allez, ça marche pas, c'est un enfant difficile, j'arrête tout, maintenant on le tient, on finit. Plus vite c'est fait, mieux ce sera. » Voilà. Et généralement, le soin dure plus longtemps dans ces cas-là. Voilà. J'ai pas encore évalué la durée précise des prises de sang dans les deux groupes. Mais intuitivement, c'est quelque chose qui peut être repérable. À suivre pour les chiffres. La douleur aussi, une baisse de 38%, donc basée sur, cette fois-ci, sur l'échelle d'hétéroévaluation. J'ai confié l'analyse des vidéos à une personne extérieure. Et ces résultats sont corrélés avec l'échelle d'auto-évaluation. Voilà. Donc quelque chose d'intéressant aussi dans le ressenti, dans l'expression de la douleur par l'enfant. Donc on s'était dit que c'était chouette, mais que l'information avant et après, c'était intéressant aussi pour renforcer un peu le côté relationnel. Donc je me suis dit, j'avais besoin d'un outil pour expliquer à l'avance la prise de sang aux enfants. Un outil qui peut être utilisé à l'extérieur aussi, pourquoi pas à la maison. Et un outil pour parler de la prise de sang directement avec l'enfant après. Donc on a fait un petit jeu, une série de tableaux en fait, où l'infirmière appelle un enfant, l'enfant arrive dans le laboratoire pour sa prise de sang et choisit déjà, c'est presque fini, son moyen de distraction, j'allais dire son moyen de contraception. En référence à la présentation de ce matin. Donc voilà. Ensuite, l'enfant joue à répéter la prise de sang, donc à mettre le garrot, à passer le tampon alcoolique pour enlever les microbes, à faire la prise de sang, à évaluer la douleur avec son infirmière, parce que c'est quand même une recommandation capitale, que l'infirmière évalue ce qu'elle fait avec l'enfant. On met un pansement et ensuite on attend les résultats. Voilà. Et donc on en est ici.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, pour ouvrir les questions, j'en ai deux.
Oui.
Une moins sérieuse que l'autre. Mmh. Il y a la même procédure pour enlever les esparadraps ? Parce que ça fait plus mal que la piqûre.
Alors, pour l'enfant qui mettait...
pour les prises de sang.
Oui, oui. L'enfant qui mettait les nuages autour de sa maman, c'était enlever un gros esparadrap sur le thorax. Donc oui, ça marche aussi. Le esparadrap, ça fait partie des douleurs procédurales.
Alors, les graphiques,
ouais.
C'est des box plots.
Oui.
Le deuxième, mm-hmm. Il y a une différence significative ou non
sur la douleur à 0,03.
Ah d'accord.
Le P.
Ok. Voilà.
C'est pas sur les 60 enfants, c'est sur un premier échantillon de 43 enfants.
Voilà. D'accord. Merci.
Ça mérite après, comme on en parlait, d'études multicentriques aussi. Et voilà, on espère que c'est un début de compréhension et de soutien à la distraction et au non pharmacologique. C'est peut-être là aussi l'importance du serious game que de permettre à la médecine et à l'autorité hospitalière de se diversifier.
Diversifier l'autorité hospitalière ?
Non, que l'autorité hospitalière ne pense pas que médicaments et s'ouvre à...
Oui, tout à fait, tout à fait. On devait... Oui, question. Ah.
En fait, c'est pas vraiment une question, c'est pour compléter ce que vous disiez, parce que je suis médecin anesthésiste et là où je travaille, ils utilisent effectivement ce type de distraction. Alors c'est l'enfant est un peu moins actif, hein, c'est un jeu effectivement par tablette, et bon, ils le font pour les douleurs, mais également aussi pour, comme vous l'avez montré, pour les débuts d'anesthésie, pour que la mise en place du masque soit bien tolérée, qu'il n'y ait pas, en fait, ils regardent pas la douleur, mais plutôt l'anxiété de l'enfant et après les états d'agitation en post-opératoire, parce qu'effectivement une anesthésie où l'enfant, on le sépare de ses parents, on l'emmène dans une salle qu'il connaît pas. Souvent, il pleure beaucoup, il est très anxieux et ça se répercute également sur le post-opératoire où ce sont des enfants qui sont souvent plus agités et plus douloureux en post-opératoire. Donc, c'est pas du serious game proprement dit, mais c'est l'utilisation des tablettes dans la distraction et finalement que ces nouvelles techniques permettent vraiment d'améliorer les choses chez l'enfant.
Moi, c'était pas une question, c'était un peu plus de faire un peu plus où est-ce qu'on peut arriver en faisant ça. À tout à l'heure, j'avais dit un truc en semblant qu'en fait, c'est ça qu'il faut explorer. Donc, je voulais te transmettre que à Stanford, il y avait une jeune fille qui sait ce qu'elle faisait. Elle travaillait avec des parents qui avaient de I'll change in English, okay? Because if not, I'll take forever. They had children that had maladie chronique respiratoire. And so what they did was they had a really hard time at home. They had to do every evening a treatment that required to wear a mask. So that was terrible. The parents were alone. They didn't have a professional. And it was really tough for them to face the children crying, having to put the mask on. So this girl, what she did, she developed with the iPad, and she put some QR codes on the mask and several other things. So when the child put the mask on, then the iPad would recognize the mask through the camera, and then a story would start. So in order to have the story for bedtime, you would have to put the mask on and therefore have the treatment done. So I think using engaging real-life objects to the treatment, or that it can empower the children to actually contribute somehow into their healing, I think it's very interesting to investigate that as well.
Et après, on peut évaluer l'efficacité parce que dans l'hôpital où je travaille, le laboratoire de prise de sang m'appelle pour me dire « Jérôme, ils veulent le papillon ». Et donc, un enfant qui a eu une procédure, une prise de sang en jouant, fixe sa mémoire sur le jeu et non pas sur la prise de sang. Et donc, on demande le papillon, d'accord. Et la prise de sang vient en deuxième plan, sur un plan moins traumatisant. Voilà. Et l'intérêt, c'est de rendre l'expérience moins traumatisante. Alors, on peut verbaliser, se donner des représentations au sein du jeu, qui sont plus accessibles pour l'enfant que le soin douloureux en lui-même.
Jérôme, merci. Merci beaucoup. C'était très léger, très...